Vous êtes sur RTL.
Il est 6h30 sur RTL. Et c'est le point sur l'info avec Isabelle Choquet, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir ce matin au standard et par SMS, ce nouveau drame aux urgences.
Une patiente a été retrouvée morte à l'hôpital Lariboisière 12 heures après son admission. L'enquête devra dire si elle a été vue ou pas par un médecin. La victoire des Gilets Bleus, les policiers qui menaçaient de rejoindre la contestation ont obtenu cette nuit bien plus que ce qu'ils demandaient, des augmentations de salaire et le paiement des heures supplémentaires. À suivre également un conseil municipal sous tension à Marseille, 40 jours après le drame de la rue d'Aubagne. Le lancement aujourd'hui de Parcoursup nouvelle version et le rugby en plein doute après la mort de Nicolas Chauvin.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous surfez avec une grosse fatigue générale.
Oh là là, les vacances arrivent à point nommé. Hein. Ils sont tous en train de craquer complètement comme vous.
Même en studio. De météo avant 7h, Marina.
À Falsbourg, en Moselle, le risque d'averse perdurera toute la journée sous un ciel gris et du vent. Moi aussi, j'ai besoin de vacances. Il est prévu 8 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Comment peut-on aujourd'hui mourir aux urgences sans même avoir été prise en charge? C'est la question après la mort d'une femme de 55 ans à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Son corps a été découvert mardi matin, presque 12 heures après son admission. Elle s'était présentée pour une fièvre et de forts maux de tête. Son arrivée a bien été enregistrée, mais quand on l'a appelée 5 heures plus tard, elle ne s'est pas manifestée. 3 enquêtes ont été ouvertes par le parquet, par l'agence de santé et par l'hôpital. Un hôpital sous le choc. Reportage RTL de Gauthier Delon-Bugard.
Ils sont plusieurs, aides-soignants, médecins, infirmiers réunis derrière une ambulance pour fumer une cigarette sur la rampe qui mène au service. Tous refusent de s'exprimer sur le décès de cette patiente. Hors micro, certains reconnaissent tout de même que le rythme soutenu, le manque d'effectifs et les locaux inadaptés face aux 300 patients par jour peuvent conduire à des dysfonctionnements, des erreurs. On avait déjà alerté sur de tels risques, s'indigne même un représentant du personnel. Une situation dénoncée également par certains patients. Sophie est venu pour de forts maux de tête.
Il y a énormément de patients aux urgences céphalées, on était peut-être une quarantaine aujourd'hui, et c'est vrai qu'il n'y a que 3 boxes. Donc je pense que oui, ils ont vraiment besoin d'avoir des moyens supplémentaires. Mais ça remet en rien en cause leurs compétences. Il manque de personnel, ils le disent eux-mêmes, quel que soit le service. Mais j'ai du mal à comprendre ce qui a pu se passer. Comment pendant 12 heures, quelqu'un a pu rester seul dans un coin aux urgences.
Depuis le mois de juillet dernier, les syndicats demandent plus de moyens. À l'époque, l'assistance publique Hôpitaux de Paris leur avait répondu que tous les postes étaient déjà pourvus.
Le reportage RTL de Gauthier Delon-Bugard à l'hôpital Lariboisière.
6h32, ils réclamaient une prime. Finalement, les policiers ont obtenu bien plus.
Oui, après une journée d'action toute symbolique et quelques heures de négociations, le ministère de l'Intérieur a finalement accepté d'augmenter les salaires et de s'attaquer au vaste chantier du paiement des millions d'heures supplémentaires en souffrance. L'augmentation sera graduelle, 40 euros dès le 1er janvier et de 120 à 150 euros au bout d'un an. La prime de 300 euros pour récompenser la mobilisation face aux Gilets jaunes ne concerne désormais plus grand monde. Mais c'est beaucoup mieux comme ça, selon Yves Lefebvre, le secrétaire général d'Unité SGP Police.
Il y a de beaux chantiers en perspective. Ce soir, on peut considérer qu'entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, ça sera en moyenne, je dirais, pour un gardien de la paix en début de carrière d'environ 120 euros d'augmentation par mois, et dans les grades un peu plus, ou dans les échelons un peu plus sommitaux, ça va être une variable d'ajustement entre 120 et 150 euros. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on voulait. On voulait une amélioration immédiate du pouvoir d'achat. On n'aurait pas signé s'il n'y avait pas d'avancée d'amélioration du pouvoir d'achat des policiers, parce que nous avions dit et répété que nous n'étions ni à vendre ni à acheter. Aujourd'hui, on a obtenu ce que nous voulions, ce que nous étions venus chercher.
Un propos recueilli pour RTL par Guillaume Chiez. Ça va un peu mieux pour Emmanuel Macron, ou en tout cas un peu moins mal. Selon le baromètre mensuel BVA pour RTL, Orange et La Tribune, la cote de popularité du président stoppe sa dégringolade. Il gagne même un point à 27% de bonnes opinions. Édouard Philippe est stable à 30%. Pour 7 Français sur 10, la crise des Gilets jaunes pourrait empêcher l'exécutif d'imposer ses prochaines réformes. Quant au grand débat promis par le président, 8 Français sur 10 en ont entendu parler. 45% souhaitent y participer. Pour les européennes, Ségolène Royal se verrait bien en rassembleuse de la gauche. L'ancienne candidate à la présidentielle travaille à une liste commune réunissant les socialistes, les écologistes et tous les progressistes. Elle serait prête à être numéro 2 derrière l'écologiste Yannick Jadot.
À Marseille, c'est un conseil municipal un peu spécial qui va se tenir aujourd'hui, quelques semaines après le drame de la rue d'Aubagne.
C'était le 5 novembre. 8 personnes avaient trouvé la mort dans l'effondrement de 2 immeubles en plein centre-ville. Une tragédie qui a braqué les projecteurs sur l'habitat indigne. Bretagne. Le maire Jean-Claude Gaudin est en première ligne. D'ailleurs, ce conseil municipal avait été reporté une première fois par crainte de troubles. Depuis ce 5 novembre, près de 200 immeubles ont été évacués, environ 1600 personnes. La plupart vivent encore à l'hôtel et elles n'en peuvent plus, Hugo Hamelin.
Oui, les yeux cernés, ça fait 45 jours maintenant qu'Amel et ses trois enfants ont été expulsés de leur T3 et vivotent dans une chambre d'hôtel.
Même si je veux vous dire que c'est la merde, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai deux enfants qui sont malades. Du jour au lendemain, je me trouve dans un hôtel sans veste de mes enfants, sans chaussures, sans rien du tout. Vous imaginez un enfant de 6 ans, je la réveille à 6h30 du matin. Je l'ai ramené chez le médecin la dernière fois. Il m'a dit, je vois un changement total du poids de votre fille. Elle a perdu beaucoup de poids. C'est un truc de fou, ça.
Pour le moment, aucun relogement ne lui a été proposé. Manger chaque jour dehors, se battre contre les administrations, c'est le fardeau quotidien de plus de 1500 Marseillais désormais. Fatih Boiroy du collectif du 5 novembre.
L'hôtel, dans tous les cas, c'est de la précarité, avec un endroit qui ne vous appartient pas, dans lequel vous n'avez pas vos meubles, vous n'avez pas vos affaires. Pour les gens, c'est un déracinement total, ils perdent tout d'un coup.
Seules 70 personnes ont été relogées. Pour l'instant, une agence publique vient de récupérer le dossier. Elle dispose de 3 millions d'euros sur un an pour reloger temporairement ces centaines de familles.
Hugo Hamelin, le correspondant d'RTL à Marseille.
Une pause à 6h35 et dans un instant, les nouveautés de Parcoursup.
RTL Matin avec Jérôme Flore.
La suite du journal d'Isabelle Choquet, la saison 2 de Parcoursup débute aujourd'hui et il y a pas mal de changements.
Le système a été inauguré l'an dernier après le fiasco du dispositif APB, admission post-bac, mais il a lui aussi été critiqué, trop d'attentes, trop d'incertitudes. Alors il y a eu des ajustements, Marie Guerrier.
Oui, et la plateforme ouvre un mois plus tôt pour permettre aux lycéens de s'informer plus en amont sur les formations, leur contenu, les connaissances et compétences attendues. Les écoles d'infirmiers figurent désormais dans Parcoursup. Il manque encore certaines écoles de commerce, d'ingénieurs et les Sciences Po. Il faudra faire des vœux d'orientation entre le 22 janvier et le 14 mars. Les réponses arriveront à partir de la mi-mai. Chaque formation indiquera alors sur la liste d'attente le rang du dernier candidat admis l'année dernière. Important, la procédure est raccourcie. Le 19 juillet au plus tard, ceux qui ont des réponses positives devront faire un choix définitif. Ils ne pourront pas garder de vœux en attente tout l'été comme l'an passé. Et donc, la très grande majorité des candidats sera inscrite dans le supérieur avant le mois d'août. À partir des remarques d'un panel de jeunes utilisateurs, l'ergonomie de la plateforme a changé. Présentation des formations plus claires et concises. Et pour plus de transparence, chaque formation fournit les critères pris en compte dans l'examen des dossiers. Des dossiers que le ministère souhaite rendre anonymes. On ne sait pas encore selon quelle modalité. Les détails seront communiqués le mois prochain.
Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL. Le soulagement pour les 280 salariés de la scierie Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. La justice a validé hier la reprise par le groupe franco-belge Altifort. Tous les emplois sont préservés. L'État prête 47 millions d'euros. Au Japon, Carlos Ghosn pourrait être libéré dès demain en échange du paiement d'une caution. C'est ce que disent les médias japonais. Ce matin, un tribunal a rejeté une nouvelle demande d'extension de sa garde à vue. Le patron de l'alliance Renault-Nissan est en détention depuis le 19 novembre pour avoir menti sur ses revenus. Mission accomplie, voilà ce que dit Donald Trump qui s'apprête à retirer ses troupes de Syrie. Le président américain a posté une vidéo cette nuit. Nous avons gagné contre Daesh, dit-il. Maintenant, nos garçons doivent rentrer à la maison.
RTL 6h39, les obsèques de Nicolas Chauvin ont été célébrées hier à Paris. Le monde du rugby est en pleine remise en question.
Le jeune espoir du stade français âgé de 18 ans seulement est décédé des suites d'un double plaquage. Un nouvel accident qui apparemment fait électrochoc. Une réunion a lieu cet après-midi à l'initiative de la Fédération pour que le rugby ne soit plus un sport qui tue. Olivier Magne, ex-international et longtemps en charge des équipes juniors, a son idée sur la question.
Il y a plusieurs pistes. La première, c'est sur le court terme. Demander aux arbitres d'être encore plus sévères sur les plaquages hauts et puis demander aux joueurs, et puis réglementairement, de descendre le niveau de plaquage. Il y a bien longtemps de ça, on apprenait à plaquer aux hanches, sous la ceinture, et donc aujourd'hui, il faut absolument revenir à ça. Donc oui, je comprends les parents qui sont inquiets. Les règles sont changées souvent tous les 2, voire tous les 4 ans. Mais il n'est pas interdit que face à la situation, voire le rugby fasse certaines concessions et autorise le règlement à changer dans les brefs délais.
Olivier Magne au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Le foot, l'OM poursuit sa descente aux enfers, éliminé de la Coupe de la Ligue hier soir par Strasbourg. Un partout à la fin du temps réglementaire, 4 tirs au but à 2. Le capitaine Dimitri Payet a raté 2 pénaltys, dont un pendant le match. Ratage aussi pour Adil Rami. Et les autres résultats, Lyon l'a emporté 3-2 à Amiens. Victoire de Rennes sur Nantes 2-1. Monaco a battu Lorient 1-0. 0-0 entre Nice et Guingamp, mais c'est Guingamp qui s'est qualifié au au tir au but. Bordeaux s'est imposé 1-0 à Dijon et Le Havre a battu Nîmes 2-1. Les quarts de finale le début janvier, ce sera Lyon-Strasbourg, PSG-Guingamp, Monaco-Rennes et Bordeaux-Le Havre. Et puis, vous l'avez peut-être entendu hier en exclusivité sur RTL, la décision d'Adrien Rabiot de quitter le PSG est ferme et définitive. C'est sa maman qui le dit, sa maman qui est aussi son agent.
Oui, interview à retrouver sur notre site rtl.fr. Merci beaucoup Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h.
À tout à l'heure.
Aux côtés d'Yves Calvi.